Radio Galère 88.4, il est 18h03. Vous venez d'écouter une chanson qu'on n'a pas l'habitude de passer dans notre émission là de vendredi. Là. Donc aujourd'hui, c'est exceptionnel. Hein. Donc on va passer pendant un certain temps ce genre de chanson-là. Alors c'est une chanson qui vient de... C'est ce qu'on appelle de une chanson palestinienne par un groupe qui s'appelle Radio Gaza Band. Et pourquoi ? Pourquoi ? Pour la simple raison que à partir de... aujourd'hui, c'est la deuxième édition. À partir donc de la semaine passée jusqu'à autour de la flottille, cette heure-là de 18h à 19h de notre émission Actualité algérienne sera consacrée à la flottille. On appellera ça une heure pour la flottille. Et pour en parler aujourd'hui, deux voix. Une que vous avez l'habitude d'entendre tous les mercredis de 18h à 19h, qui s'appelle Une heure en Palestine. Il s'agit de Philippe. Philippe. Et la deuxième voix, c'est celle de la personne qui nous a accompagnés déjà la semaine passée. Et tu seras avec nous jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc c'est Samuel. Voilà. Donc c'est la deuxième édition de une heure pour la flottille. Et je vais vous donner la parole à vous deux de décider qui commence. Alors le micro jaune et vert.
C'est moi. Merci beaucoup Aziz. Donc je suis Philippe. Effectivement, alors, je suis très très heureux d'être à nouveau sur Radio Galère. Alors petit rectificatif, je ne suis pas tous les mercredis dans l'émission Un an en Palestine.
Hein. Moi, je t'écoute tout le temps.
Non, mais en vérité, moi je suis là parce que je suis membre de Palestine 13 et donc cette émission Une heure en Palestine hebdomadaire est animée tour à tour parfois par l'Union juive française pour la paix, parfois par les gens du collectif Macpal en résistance, etc. Oui. Voilà. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que je suis tellement attaché à la mer, moi qui suis né donc à Pont-Mioux là-bas il y a 63 ans, et j'ai connu Radio Galère par la mer lorsque l'un de ses créateurs, Étienne Bastide, au siècle d'avant, amenait des jeunes gens de toutes les couleurs avec des micros pour sur les ferries à l'époque, on disait de la SNCM, la Société Nationale Corse Méditerranée, où un Corse avait créé Jean-Valère Gironi, mais il faut le citer, l'association Omarine ou la mer en fait, voilà. Et donc j'ai connu Radio Galère comme ça, et j'adore le logo de cette radio qui est donc une galère, j'adore son slogan, hein, la radio qui rame à contre-courant depuis 43 ans. Mais j'avais pas encore compris que galère, les initiales ont une signification, hein. Donc au début, ça regroupait de plusieurs radios qui étaient pirates jusqu'à ce qu'elles deviennent légales en 84. Et donc galère, ça veut dire le groupe associatif pour
groupement
associatif pour la liberté d'expression.
Radiophonique. Voilà. Là. Et juste pour te dire que, paradoxalement, Étienne ne sait pas nager.
Et il a plein d'autres qualités.
Comme beaucoup trop de Marseillais, malheureusement, mais c'est un autre débat, l'accès à la mer. Ah, mais non, c'est le même débat en vérité. L'accès, on a 25 kilomètres de littoral, quand on va du Grand Nord, entre guillemets, l'Estac ou Grand Sud, les Goudes, mais la quasi-totalité de ce littoral est privatisée par le grand port de commerce, évidemment. Bon, on a eu la chance que quand, dans les années 80, le métro s'est créé avec les débuts du métro, on a eu ces fameuses plages du Prado, mais de plus en plus, on voit des gens, bon, peut-être qu'avec les changements politiques, ça va changer, mais qui veulent installer des transats, etc., privatiser les plages. Voilà
et
l'endroit le plus emblématique, c'est qu'on a la petite plage du centre-ville à la sortie du vieux port qui s'appelle Les Catalans, mais de là jusqu'à l'extrémité de la ville, c'est-à-dire à la base de Corbière, on ne peut pas se baigner, sauf à un endroit. Bon, là, il y a eu l'échec de faire un bain de piscine dans le Mucem, mais à l'Estac, hein, on va surtout parler de l'Estac aujourd'hui, là où enfin les navettes RTM, malheureusement, elles fonctionnent que quand il y a les horaires touristiques, c'est-à-dire là de mi-avril à mi-septembre, il y a un endroit qui s'appelle l'Espace Mistral, c'est là que les navettes RTM arrivent, et là, c'est la seule portion de quai qui n'est pas attribué à des propriétaires de place. Voilà. Et donc là, des jeunes gens, même si... Là, c'est pas interdit. hein, parce que c'est pas vraiment un port. Donc là, ben, des jeunes d'où qu'ils viennent, ou des vieux d'ailleurs, hein, ils peuvent se baigner, mais enfin, c'est pas vraiment très agréable. Voilà. Et puis, plus loin, il y a l'immense port privé, cette fois le port Corbière. Hein. Bon, il faut que ça existe aussi, des ports privés, mais enfin, il prend beaucoup de place, et j'ai cru comprendre qu'il allait encore s'étendre. Oui. Voilà. Et entre les deux, donc entre l'espace Mistral, qui est quand même un parc très agréable, heureusement qu'il existe, et ce grand port privé, il y a donc un grand espace, une friche, où il y a longtemps, il y avait des entreprises maritimes, des hangars, une mise à l'eau, etc. Mais ça fait des décennies que cette friche est abandonnée. Elle appartient ni à la ville, ni à la métropole. Elle appartient au grand port maritime de Marseille. Et donc, un nombre incalculable de gens, les CIQ, des associations, y compris des élus, veulent que ce lieu redevienne accessible aux Marseillais. Et il se trouve que donc... à l'hiver dernier, des gens qui préparaient l'édition 2026 de la flottille Southern Madeleine to Gaza nous ont questionné, nous les Marseillais, où est-ce qu'on va pouvoir mettre des bateaux?
Voilà.
Eh bien, on leur a dit, à Port Corbière, ça va coûter une fortune et il n'y a pas de place. Au vieux port, n'en parlons pas. Et donc, c'était le seul endroit possible. Et donc, je suis très content qu'en plus d'une émission hebdomadaire Une heure en Palestine, il puisse y avoir cette émission, donc Une heure en flottille. Contre le blocus de Gaza, hein, c'est un seul objectif. Voilà.
Voilà. Allez, à qui est le tour? Est-ce que
ça serait pas bien de commencer par présenter justement, il y a comme trois flottilles, il y a Global Soumout, Madeleine et la route de Zaatar.
Ouais, alors attention, la route du Zaatar, ça n'a rien à voir. Hein.
Ouais. Ça fait partie du circuit, et j'aimerais bien que tu nous expliques un peu.
Bon, il se trouve...
Puisque, en fait, donc, les Palestiniens, aujourd'hui, ne peuvent très difficilement exporter leurs produits, et tu as quelques bonnes nouvelles à nous annoncer, justement. Et toi, tu fais partie aussi des gens qui permettent de se procurer des produits palestiniens qui ne sont pas confisqués par l'autre. Et de pouvoir soutenir les agriculteurs et le peuple palestinien et cisjordanien dans leur production alimentaire et manufacturière diverse.
Ok. Mais enfin, bon, moi, je trouve que donc, j'ai connu Radio Galère parce que j'ai été pendant 30 ans instituteur. Et donc, les mots, voilà. Donc là, je ne voudrais surtout pas qu'il y ait de confusion. Ce qu'on appelle les flottilles, c'est une dynamique qui existe depuis 2008, qui est internationale, qui mobilise des gens de toutes sortes, des partis politiques, des associations, voilà. La route du Zaatar, c'est un peu, et donc moi, c'est pas une flottille, c'est une route. Il y a des routes terrestres, bien sûr, mais il y a des routes maritimes. Et donc, je ne suis jamais allé, malheureusement, en Palestine. D'ailleurs, de l'autre côté de la Méditerranée, je suis allé plein de fois en Tunisie, mais c'est tout. À mon grand regret, mais c'est comme ça. Mais j'ai rencontré depuis plus de 15 ans des gens qui sont là-haut en Aveyron, à côté de Rodez, et qui, il y a plus de 20 ans, ont créé la petite entreprise FIP. Alors, FIP, c'est pas la radio.
Non.
FIP, c'est France Import Palestine. Voilà. Et donc, avant le 7 octobre, à peu près 4 fois par an, un conteneur de production de Cisjordanie, évidemment, des productions agricoles, des productions artisanales, arrivées au port de Haïfa, parce que forcément ça passe par le port d'Israël, et puisque malheureusement l'accès à la mer est interdit aux Palestiniens.
Confisqué,
voilà. Et donc, depuis le 7 octobre, ça a été beaucoup plus compliqué, mais ça continue quand même. Mais le précédent conteneur est arrivé en août 2025.
Voilà, donc ça fait déjà
donc ça fait plusieurs mois qu'il nous restait de l'artisanat, mais très peu d'alimentaire. Et là, il y a eu un petit miracle. Là, le 1er avril dernier, blague, alors qu'il y a eu des jours de Mistral pendant que les flottilles se préparaient, un conteneur est arrivé dans le golfe de Kos. Donc les produits ont passé la douane, sont partis en Aveyron. Tout de suite, les gens de France et en Port Palestine ont fait des tournées en camion dans le nord. Ils sont venus à Marseille là, il y a 3 jours. Donc, on a à nouveau des produits palestiniens, c'est-à-dire la route du Zaatar. Et alors, dès demain, d'ailleurs, demain, c'est donc samedi 18, et c'est la grande vente de printemps là-bas à MLS Pointe Rouge. Il y aura un petit stand. Voilà. Ensuite, le dimanche matin, comme chaque dimanche matin, en camionnette, je vais aller au marché de la Ciotat. Mais comme la météo est bonne, dès dimanche soir, on va prendre un voilier, un seul, et on va aller à Ajaccio, retrouver les amis de Corsica Palestina. Ils vont pouvoir récupérer des produits de Palestine, et on va revenir avec les produits corses. Voilà, ça c'est la route du Zaatar. Mais Donc l'objectif de la route du Zaatar, ça s'appelle une croisière alternative. Mmh. C'est-à-dire faire naviguer des gens en Méditerranée occidentale, hein, pour l'instant. J'espère un jour aller au Maghreb, mais pour l'instant c'est trop compliqué. Voilà. Oui. Avoir à bord des produits méditerranéens, et là évidemment surtout palestiniens, mmh. et puis rencontrer des gens différents. C'est ça qui est bien en bateau, c'est qu'on a la capacité quand même de d'abord de naviguer, et ensuite quand on touche terre, il y a beaucoup de possibles. Voilà. Oui. Mais les flottilles, évidemment, c'est tout à fait autre chose. Moi, et donc, on a eu l'année dernière, au mois d'août 2025, on m'a appelé, on m'a dit, voilà, vous vendez des produits palestiniens, venez. Je me suis retrouvé là-bas à la Belle de Mai. On est d'ailleurs ici à la Friche. Oui. Là, c'était dans la salle de la Fraternité. Et là, j'ai rencontré tout un tas de gens nouveaux, jeunes, hommes et femmes, surtout femmes d'ailleurs, qui se sont trouvés mobilisés par l'objet flottille. Mmh. C'est-à-dire une chose très contrainte, préparer des bateaux, former des équipages, apprendre un peu à naviguer, mais pas tant que ça, il y a des skippers bien sûr, et puis voilà. Et donc, quand la flottille précédente constituée de 40 bateaux, malheureusement, s'est fait une fois de plus attaquer en eau internationale, etc., j'ai pu rencontrer encore chez elle la doyenne des flottilles 2025.
Qui a quand même 84 ans.
Elle a 83 ans, elle s'appelle Isaline Chouri. Et on pourra entendre une partie de son témoignage dans l'émission Une heure en Palestine de mercredi prochain. Voilà. Mmh. Et donc, quand la précédente flottille s'est terminée avec quand même beaucoup de douleur pour ceux qui se sont engagés, hein, ils ont été mis en prison, torturés, etc., privés de plein de choses. Mais tout de suite, il y a eu la volonté internationale de faire une flottille 2026 encore plus nombreuse. Mmh. Et donc, nous, en France, c'est la Thousands Madeleine to Gaza. Elle est partie le 4 avril. Il s'est passé à l'Estac des choses extraordinaires. Tu me disais toi-même, je ne savais même pas d'ailleurs qu'au niveau nourriture, pour nourrir tous ces hommes et ces femmes qui ont préparé pendant un mois les bateaux, tu m'as dit qu'il y avait, je ne sais plus où, en Chartreux, la cantine.
Ouais, moi je fais partie d'un groupe de... mince, un trou de mémoire. La convergence des Louches et aussi la cantine des Chartreuses avec plein de jeunes antifas, super chouette en fait. Hein, et hyper bien organisé pour faire la collecte avec les différents petits commerçants, agriculteurs et maraîchers de Marseille pour récupérer de la nourriture et faire assez à manger pour tout le monde, et que les gens qui travaillent sur les bateaux, même ils aient leur assiette, même s'ils arrivent toujours tard après tout le monde.
Voilà, parce qu'il se trouve que pendant tout ce mois de préparation, c'était le mois de mars, il y a eu un mistral terrible, il y avait beaucoup de vent, c'était dur. Ouais. Mais il y a eu comme un espèce de miracle. Le jour du départ qui avait été fixé longtemps avant, à l'avance, c'était pendant le week-end de Pâques, c'était le samedi 4 avril, et ce jour-là, il a fait un temps magnifique. Ouais, les gens étaient très nombreux, massés à l'Estac au départ. Au Mucem, et après, on a eu énormément de retombées dans les réseaux, des photos, des sons. Et quand on a préparé cette émission, on est tombé sur un reportage qui nous a semblé vraiment excellent, qu'on va peut-être maintenant passer par petits morceaux, et on voit dans ce reportage tout ce qui s'est passé au départ à l'Estac, des témoignages, pourquoi des gens se sont engagés, qu'est-ce qui leur a pris d'aller faire un truc pareil. En plus, l'année dernière c'était en septembre, mais là, c'est en avril. Hein. Ouais. L'eau, elle est froide et la mer est très dure. Donc peut-être qu'Aziz, on peut démarrer ce reportage. Et
après, on rappellera aussi un peu comment ils sont procurés plein de bateaux, parce qu'il y avait plusieurs choses que tu m'avais racontées qui sont importantes que les gens sachent.
Ok. Donc là, voilà, on est le samedi 4 avril et donc on va écouter par morceaux ce reportage et en parler ensemble.
Nous avons décidé de réactiver cette campagne parce que dans la mesure où la France est complice de facto du génocide en ne faisant rien, en ne faisant que quelques déclarations de principe, on a regroupé les membres de la campagne que nous avions mise sur pied en 2011, c'est-à-dire des partis politiques, dont le NPA, c'est-à-dire des syndicats, c'est-à-dire des assos de la société civile, du mouvement de solidarité avec la Palestine. Nous sommes 35 actuellement et nous avons donc décidé de nous inscrire dans la flottille de cette année et de travailler avec les 1000 Madeleines.
C'était donc le 4 avril, on entendait Claude Léostic, qui est donc une femme, bien évidemment. Je répète que ce qui m'a énormément agréablement surpris, c'est que énormément de femmes se sont investies dans cette flottille. Donc Claude Léostic fait partie de l'association France-Palestine Solidarité. Et donc, elle explique qu'en 2011, il y avait ce qu'on appelle une coalition française pour les Foutis, donc là, qui regroupe beaucoup de parler politique, et ils ont décidé cette année de se remobiliser. Donc, on va continuer d'écouter Claude un petit peu plus tard. Et là, on va passer cette fois sur Nemo. Nemo, qui est donc l'un des skippers. Alors, sur les 20 bateaux qui sont partis, je sais pas le nombre exact, mais il y a au moins 8 ou 9 bateaux, donc presque la moitié, qui sont dirigés par des skippeuses, donc des femmes et, et jeunes en plus. Voilà. Alors lui, Nemo, justement, c'est un garçon, mais il est sur un bateau. Alors les bateaux qui ont été acquis pour faire cette flottille, évidemment, il y a eu des dons, il y a eu des levées de fonds, toutes sortes de moyens.
Il n'y avait pas une histoire avec les dockers, justement, qui s'étaient cotisés où chacun
On ne sait pas exactement, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu, depuis plusieurs années, des mobilisations pour les flottilles, mais vu vu la popularité de celle de l'an dernier qui avait regroupé plus de 40 bateaux, il y a eu beaucoup plus de fonds cette fois pour acquérir plus de bateaux. Chaque bateau, c'est un peu comme les animaux, on leur donne un nom.
Bah oui.
Mais pour la flottille, ils ont été rebaptisés. Mmh. Et donc là, on va entendre Nemo. Dans les 20 bateaux de la Southern Madeleine to Gaza, chacun a une thématique. Il y en a un, c'est le bateau pour les pêcheurs, pour aider, si c'est possible, les pêcheurs gazaouis. Il y en a un pour les paysans qui est rempli de graines, pour l'éducation, etc. Mais le bateau skippé par Nour a été par Nemo a été rebaptisé Nour en hommage aux femmes palestiniennes. Alors on va écouter donc Nemo nous expliquer pourquoi il s'engage dans cette histoire et comment.
Qui travaille avec plein de pôles qui sont des pôles de compétences, qui sont des pôles de désir, qui sont des pôles qui font sens aux personnes et les personnes s'investissent là-dedans. Qu'en fait c'est une victoire. Dans le sens où on a réussi à nous organiser de manière non hiérarchique, de manière autonome, et où on a pris cet endroit. Donc c'est déjà une victoire populaire, parce qu'on n'a rien attendu. Enfin, on n'a rien attendu. On a contacté le port nous a pas répondu, on a contacté plein de ports, personne ne nous a répondu, on a contacté les municipalités, personne ne nous a répondu, et du coup on n'a pas attendu que les pouvoirs publics nous autorisent à faire quelque chose, on leur a demandé leur aide, ils n'ont pas voulu, on a fait sans eux, on a fait ce qui nous semblait juste. Et on a réussi à le mener à son terme, c'est-à-dire que ça fait 6 mois qu'on est sur cette lutte-là, tous et toutes avec des investissements différents. Et il y a des gens qui sont arrivés il y a 2 jours, il y en a qui sont arrivés il y a 6 mois, il y en a qui ont lâché en cours de route parce qu'ils pouvaient plus, parce qu'ils ont des conditions qui sont plus tenables. Mais en fait, on a réussi à armer 20 bateaux.
Juste pour quand les Israéliens nous regardons, est-ce que tu peux dire, que j'ai à l'image, ce que veut dire armer un bateau?
Remplir le carburant, mettre la nourriture, trouver l'équipage, trouver les équipiers, les équipières. C'est ça, armer un bateau. C'est le préparer pour qu'il puisse naviguer aux besoins de la mission. N'est pas armé. Mais en fait, on a réussi à armer 20 bateaux avec que des gens qui sont compétents, militants, bénévoles et qui sont désireux de ne pas se laisser voler leur monde par les fascistes qui sont en train d'essayer de le prendre.
On a décidé de s'installer ici et qu'à peine 24 heures après notre arrivée, les premiers habitants sont arrivés et ont dit « Ok, on va vous aider à organiser cette flottille ». Ils se sont occupés de nous faire à manger, ils se sont occupés de la logistique. Ils ont fait des réunions pour préparer la mobilisation à terre et honnêtement, sans eux, on n'aurait pas pu préparer cette vague de bateaux qui sont derrière nous. Donc encore un grand merci aux habitants de l'Estac qui parleront un peu après. C'est extrêmement important pour nous de mentionner ça.
Esther, elle est une des femmes qui a tenu un rôle très très important dans la coordination. Mais juste avant, ce que disait le skipper Nemo est très important. Hein, parce que, encore une fois, j'ai été instituteur, les mots sont très importants. Je déteste, par exemple, l'année dernière, il y a eu un groupe de bateaux pour la paix, mais ils ont appelé ça armada pour la paix. Ouais. On fait pas une armée pour la paix. Donc l'expression armer un bateau, il a bien expliqué Nour, ça consiste à l'équiper de tout ce qui est nécessaire pour qu'il navigue. D'accord?
D'armature, en fait, c'est plus
notion-là. Le propriétaire d'un bateau, c'est un armateur. Voilà. Mais le mot armé, il porte à confusion, forcément, vu à quoi vont se confronter ces gens-là, c'est-à-dire à l'armée d'occupation israélienne. Et donc, il faut bien noter que depuis 2008, depuis que les flottilles existent, jamais, ni un équipier, ni une équipière n'est venu armé avec un pistolet, pas du tout. Voilà. Ce sont des gens absolument pacifistes. Les seules armes qu'ils ont, c'est les fusées de détresse.
Oui, leur sourire.
Alors, voilà, certaines fois, on les voit au stade Vélodrome, c'est vrai que ça peut blesser, mais c'est pas une arme. Mmh. C'est très très important. Hein. Mmh. Voilà. Et en plus, ce sont des voiliers, la symbolique est forte aussi. Ils auraient pu équiper, je sais pas, une ancienne frégate militaire ou autre. D'ailleurs, ça s'est fait. Non, non, c'est des voiliers. Pourquoi c'est des voiliers? Parce que d'abord...
Enfin, si porter un message.
Oui. Pas, ça non, vocation, non, non. Ou... J'allais dire, il n'y a pas d'urgence. Bien sûr, si, qu'il y a une urgence oui, absolue à la survie pour Gaza. Mais on va écouter ensuite leur témoignage. C'est pas des fous ces gens-là. Même s'il y avait 1000 voiliers, c'est pas avec 1000 voiliers qu'on va pouvoir secourir des gens qui sont en situation de survie actuelle. Voilà. C'est pas non plus réellement une opération humanitaire parce que les dispositifs humanitaires, ils existent à terre, mais ils sont bloqués. Et donc, c'est un acte politique et le fait d'utiliser un voilier, c'est une symbolique très forte. C'est un objet fragile. La Méditerranée est une mer difficile. On est au mois d'avril. En avril, ne te découvre pas de film.
Voilà. Eh oui.
Et donc, bien évidemment, qu'il n'y a aucune espèce d'agressivité de la part de ces équipes. Et pourtant, dans les eaux internationales, ils sont attaqués comme faisant des pirates, des gens hors la loi, que sont les marins d'Israël.
Oui. Et les nourritures, médicaments, tout le matériel qui a été embarqué était neuf, bien préparé, justement, contrairement aux livraisons que fait l'État français, où quand il larguait du lait périmé.
Voilà. Voilà, donc
les citoyens sont plus respectueux de la vie.
Voilà, et ce qui est sûr, c'est que moi je suis heureux en tant que marin parce que depuis que je parle de Palestine, on est obligé de constater qu'on prend n'importe quel texte, que ça soit une poésie, un texte politique, un texte historique, dans la page, on va trouver 50 fois le mot terre. On va parler des territoires occupés, on va parler des frontières terrestres, on va parler des agriculteurs qui se font voler leurs terres, qui se font arracher leurs oliviers, mais on oublie trop souvent de parler de la mer. Or la mer est fondamentale. Si un pays n'a pas accès à la mer, il est enfermé. Et a fortiori Gaza, il y a eu récemment une expo à l'Institut du Monde Arabe qui s'appelle Les Trésors Cachés de Gaza. Gaza, par la géographie, a un accès à la mer extraordinaire. Voilà. Et donc, ben, c'est pas par hasard que les Estakéens, c'est pas des Marseillais, c'est des Estakéens. Eux, ils savent ce que c'est la mer, hein, puisque encore une fois, malheureusement, ils en sont privés, mais ils ont sans arrêt sous leurs yeux aujourd'hui les paquebots monstrueux qui polluent que ça met. Ils ont aussi, bien sûr, les entreprises qui travaillent sur le port. Donc malheureusement, le port à Marseille, il est coupé de la ville. Il y a le vieux port, mais là, il n'y a que des plaisanciers. Voilà. Et donc les Estakéens, ils savent ce que c'est. Ils savent ce que c'est la mer, ils savent, ils sont allés plus au nord, ils sont exposés au Mistral, etc. Bref. Et donc, il y a une solidarité extra, une créativité incroyable. Et y compris, là, 4 jours avant le départ, on a vu apparaître sur ce quai. Alors, ça commence comme Gaza, mais c'est une gazette.
Et voilà.
Et donc, peut-être que tu peux nous en lire quelques articles.
Oui, justement, voilà, il y avait justement, Tartre très broderie palestinienne et la réalisation des voiles. Depuis plus de 3000 ans, les femmes palestiniennes tissent leur histoire, leur résilience et leur résistance dans l'étoffe. La broderie est une pratique sociale intergénérationnelle traditionnelle. Elle constitue une des formes de résistance culturelle du peuple palestinien contre la colonisation. Elle représente une source de revenus pour de nombreuses femmes. Dans l'art du Tatrez, la broderie du point de croix est réalisée avec un fil de soie ou de coton sur du lin, du coton ou de la laine, parfois agrémenté de petites perles. Les motifs brodés et les couleurs varient d'une région à l'autre, Ramallah à Gaza, Hébron à Naplouse. Ils indiquent également le statut marital et économique des femmes. Depuis l'occupation, la pratique de la broderie a été relancée parmi les réfugiés et la diaspora pour réaffirmer et souligner l'identité culturelle, politique, nationale. Grand-mère, mère et jeune fille se réunissent pour broder et coudre, créant ainsi une source de revenus pour leur famille. Lorsque la tradition se heurte au massacre, à l'exil, à la dispersion, à l'occupation militaire, à la répression, elle évolue et, grâce à la créativité des femmes, reflète la tragédie politique subie par le peuple palestinien. Aujourd'hui, nous portons ces symboles sur le bateau voguant vers Gaza. Elle un rappel que la culture, l'identité et l'avenir de la Palestine sont indélébiles. Chaque motif que nous portons est un hommage aux femmes à Gaza, aux générations palestiniennes en exil, en lutte pour la liberté. Pour la réalisation de ce projet a été accueilli avec nos voiles et la Cité des Arts de la rue de Marseille. Merci à vous. En plus du TA13, quatre artistes ont travaillé sur un projet d'autres voiles depuis maintenant 2 semaines. L'atelier de l'effervescence des personnes de la flottille, les habitants du quartier, les artistes de la Cité des Arts et des rues, passent pour aider et réaliser à la réalisation de ce projet. Des étudiants de l'école d'art FEAR sont venus apporter aussi leur soutien.
Voilà. Donc merci Sam. Sam nous lisait donc un petit article parmi tous ceux qui ont été publiés dans la gazette là qui s'appelle la gazette de l'Estac. Et je sais que juste après le départ de la flottille, un collectif s'est créé à l'Estac, un collectif en soutien à la flottille. Et cette gazette va être prochainement rééditée. Donc voilà, il se trouve qu'en 2012, on a créé à Marseille les voiles de la paix en Méditerranée. Donc on fait plein des voiles depuis longtemps. Mais j'ai été fasciné. Il y a eu une première session de peinture de voiles. C'était la première quinzaine de mars. C'était dans une usine un peu désaffectée du 14e. Et là, j'ai découvert cette idée géniale donc de prendre sur Internet, on peut aller, tout le monde peut aller sur Internet, voir des motifs de broderie palestinienne. Tu nous as bien décrit les significations. Et donc, ça fait comme des pixels. Et donc,
c'est super joli.
Des gens ont tracé des traits sur les voiles pour agrandir ce motif. Et on a pu voir ça. Voilà. Et la deuxième session de peinture de voile a eu lieu cette fois, effectivement, aux Égalades, à la Cité des Arts de la rue, dans le hangar de lieu public, qui a maintenant, je dirais, la délégation de gestion de la Cité des Arts de la rue. On a vu à nouveau se reproduire des motifs de broderie, mais on a vu surtout d'autres artistes. Et là, je pense en particulier à Amani. Je suis arrivé un jour, Amani tenait dans une feuille A4 un portrait d'un jeune enfant, voilà. Et il y avait 3 ou 4 personnes qui traçaient des grands traits sur la voile. Et en 2 jours, ces gens-là ont réalisé des choses absolument merveilleuses, que ce soit les voiles peintes ou les coques graffées. Et alors, ce qui s'est passé le 4 avril, c'est que c'est donc le week-end de Pâques, et chaque année au week-end de Pâques depuis 60 ans, c'était le 60e anniversaire donc de la plus grande régate, c'est-à-dire de course à la voile de Marseille, qui s'appelle la Semaine Nautique Internationale de la Méditerranée. Donc là, il y avait plus de 120 bateaux inscrits, y compris des très grands bateaux qui sont fabriqués en carbone, qui coûtent très cher. Et donc, avec quelques marins marseillais, on s'est efforcé pour que les événements ne se télescopent pas. Les autorités, qui comprennent pas toujours très bien les choses, ils ont mis des gendarmes maritime, ils croyaient qu'on allait bloquer le port des paquebots ou alors qu'on allait rentrer dans le port autonome. C'était surtout pas l'objectif du départ. L'objectif du départ, après tant de semaines et de mois de préparatifs, c'était de rendre populaire l'événement. Et je dois dire que c'était assez ironique de voir les bateaux de compétition qui ont des voiles grises ou noires parce qu'il y a du carbone et il y avait peu de vent. Donc ils étaient immobiles. Et pendant ce temps, la flottille, eux, ils naviguaient avec leur coque graffée. Et on a eu l'autorisation, et il faut quand même remercier la capitainerie du Vieux-Port, normalement on ne peut pas garder ses voiles hissées dans l'avant-port, devant le Mucem.
Exact.
Mais là, pendant 3 heures, les 19 bateaux ont fait comme une parade, une vraie. Merci. C'était pas du tout pareil que la parade qui a consisté à accueillir le Belém et la Flamme Olympique. Bon, bref. Et il y avait énormément de gens sur le Mucem, qui avaient un peu le soleil dans les yeux d'ailleurs, mais il y a eu vraiment une vraie fête. Et l'objectif c'était ça, c'était que... tout ce travail qui a été fait, encore une fois, vous l'avez entendu, de façon autonome, horizontale, sans vraiment d'autorisation, mais avec du respect, génère un enthousiasme de ce départ. Voilà. Et du coup, en plus des structures qui, depuis des années...
C'est un peu le rôle aussi des gens qui restent à quai, c'est d'encourager les marins, quoi, ceux qui prennent les risques.
Et donc
c'est notre devoir.
Et donc là, le 4 avril, les 20 bateaux sont partis de Marseille. Mais mardi dernier, en début de semaine, il y en a 60 qui sont partis de Barcelone. Alors, on peut retrouver tout ce qu'on vous dit là en tapant « Thousands, Madeleine, to Gaza ». Et je crois que d'ailleurs qu'Aziz a bien envie de nous expliquer d'où ça vient Madeleine. Donc « Thousands », ça veut dire « mille », « Madeleine ».
Madeleine, c'est... C'est le prénom d'une jeune fille qui est pêcheur. Et d'ailleurs, un petit article dans la Gazette de l'Estac, on fait état.
Alors, c'est Madeleine... Oui. Ouais, voilà.
Donc Madeleine, ça s'écrit M-A-D-L-2-E-N, et évidemment ça veut dire Madeleine en arabe. Madeleine, hein. Et donc c'est une jeune fille, quand elle était adolescente, dans les années 2010, son père, patron pêcheur, tombe malade, et elle dit, moi je vais devenir patron pêcheur. Alors c'est déjà pas facile à Marseille ou ailleurs, mais là-bas encore plus. Pourquoi là-bas? Parce que déjà au début des années 2010, les pêcheurs gazaouis étaient empêchés de travailler, bref. Et donc à ce moment-là, il y a un couple de gens d'origine juive, juive ukrainienne d'ailleurs, dont les parents ont été déportés, qui s'appellent Pierre Stamboul et Sarah Katz, qui étaient là-bas, dans ce moment-là. Quand ils ont vu ce qui se passait, c'était un choc absolument terrible pour eux. Et ils travaillent énormément. Pierre écrit beaucoup de livres pour l'Union juive française pour la paix. Et Sarah Katz a pu embarquer à bord de ses chalutiers et faire des photos et des vidéos, mais amateurs. Hein, voilà. Mais, et dans ces photos, on voit cette jeune Madeleine. Et le film a été monté en 2024, il y a donc 2 ans seulement. On peut le voir sur YouTube en vision gratuite. Il s'appelle « Aimer la mer à Gaza ».
Et on voit la mer à Gaza.
Voilà. Et on voit donc cette Madeleine, elle est devenue patron pêcheur, elle est devenue femme, elle est devenue mère, elle a 4 ou 5 enfants maintenant, je crois qu'un peu plus même, voilà. Et donc c'est un symbole absolu, encore une fois, de ce que ces gens-là, où qu'ils soient, malgré toute l'oppression qu'ils subissent, hein, parce qu'à l'époque, en 2010, les pêcheurs de Gaza, soi-disant, pouvaient pêcher à 25 000 décotes, mais dès qu'ils arrivaient à 6 000 décotes, bon, ça fait même pas 10 kilomètres, ils étaient agressés par les gardes-côtes israéliens. Donc j'invite tout le monde à aller voir ce film « Aimer la mer à Gaza ». Et voilà pourquoi cette photo s'appelle « Thousands Madeleine ».
Et d'ailleurs, il y a plusieurs cinémas à Marseille qui diffusent pas mal de fois les films.
Voilà. En tout cas, il y a une autre flottille, parce qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier.
Voilà.
Il ne faut pas mettre tous ces bateaux dans la même dynamique, aux mêmes trajectoires, etc. Donc, de Barcelone est partie là en début de semaine, la globale Sumut Flotilla. Donc, globale, on comprend ce que ça veut dire. Flotilla aussi, Sumut, je rappelle que ça s'écrit S-U-M-U-D. Et c'est un verbe où il faut plusieurs verbes français pour le traduire. C'est résister, endurer, persévérer, espérer, ouais, etc. Et donc là, cette flottille est, on va dire, plus puissante en termes de moyens financiers.
Oui.
Des bateaux plus nombreux. Ils sont partis à plus de 65. Et il va y avoir un premier regroupement en Sicile. Et c'est seulement là, à partir du 20 avril, que les moyens, on a tous envie de voir où ils sont. Voilà. Sachez que dans le site Thousand Madeleine ou dans le site global Sumut Flotilla, à partir du regroupement Sicile, on peut voir les positions du bateau. Même si on n'aime pas ce monsieur, on n'a pas le choix. Ces bateaux sont équipés du système Starlink, hein, de Elon Musk, pour communiquer leur position. Oui. Ils ont des caméras pour filmer ce qui se passe d'abord quand tout va bien et quand tout va mal. Mais là, je ne suis pas un spécialiste de la radio comme vous. Il y a une radio qui s'appelle Wave Zero.
Oui.
Pour l'instant, c'est en test, c'est en, voilà, mais prochainement, on pourra vous communiquer dans quelle bande son ils sont pour capter Wave Zero. Voilà.
Et on leur a demandé si c'est possible. Ça veut dire que nous sommes à leur disposition tous les vendredis, 18h à 19h. Heure de Paris, quoi, voilà.
Hein, voilà, donc il faut être patient, hein, les marins, ils doivent être patients, comme les paysans d'ailleurs, voilà. Donc il faut attendre le regroupement en Sicile, où là, certains aspects techniques de la flottille qui étaient très compliqués à organiser à l'Estac, dans la tempête, et même à Barcelone, vont être mis au point, voilà, ouais. Donc on pourra suivre la progression.
Il y a un deuxième rendez-vous du côté de ce qu'on appelle de la crête.
Il y aura un premier regroupement en Sicile, les Italiens les rejoindront, ensuite un deuxième regroupement en Grèce, où d'autres navigateurs les rejoindront, et le dernier regroupement, ça sera en Crète. Voilà,
voilà, exactement.
Alors, peut-être que Sam, tu veux enchaîner, parce que moi je parle beaucoup.
Non, ça va.
Vous voulez que je fasse une pause?
Non, parce que on a déjà tout dit ce qu'il y avait à dire, on pourra rajouter, compléter, et puis peut-être que si des gens veulent prendre l'appel pour parler de la flottille, vous pouvez appeler le 04 91 08 28 10.
J'ai oublié de le dire.
Il n'y a pas de souci.
Voilà.
Alors, quand même, on est dans un lieu culturel, la radio, hein, et je voulais dire que l'innovation, pour moi, très importante de l'édition 2026 des flottilles, je rappelle que ça fait 18 ans que ça existe, c'est qu'il y a un bateau qui s'appelle le Centre Culturel Embarqué. Alors, quand on le trouve sur Internet, en tapant « on board », Onboard, O-N-B-O-A-R-D, en anglais, ça veut dire embarquer, Onboard Cultural Center. Donc ça, c'est un bateau qui était basé à Sète. L'idée était en gestation depuis des mois et des mois. L'idée, c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, tous ces bateaux qui partent en flottille se font ou couler ou confisquer. Les gens, on leur prend tout ce qu'ils ont, tout est perdu.
Toutes leurs affaires.
C'est-à-dire tout ce qui se crée pendant la navigation, que ce soit des photos, des dessins, des textes, des musiques, des œuvres d'art ou autres, ben, tout est perdu. Et donc, sur ce bateau centre culturel embarqué, il y aura toujours deux marins et il y aura des artistes, des journalistes, etc. Des sacs étanches ont été distribués à tous les bateaux de la flottille et au fil et à mesure de la progression, là en ce moment, fin avril, début mai, etc., ce bateau collectera physiquement les objets que les autres bateaux pourront leur confier. Et le moment venu, là où on atteint ce qu'on appelle la ligne rouge, c'est-à-dire, on ne sait pas où, mais entre la crête donc, et la côte Gazaoui, ce bateau-là changera de cap pour ne pas se faire raisonner et pour constituer une matière de ce qui se crée. Et il y a déjà des dates qui ont été prises, d'ailleurs, puisque ce bateau était en chantier à Martigues, à Port-Maritima, dans la tempête de Mistral. Et le mercredi 1er avril, il y a eu une accalmie. On a pu mettre le bateau à l'eau. Le maire de Martigues, Gabi Charroux, est venu nous voir. Merci. Et date est déjà prise, la début juillet. Ils sont un peu bizarres là-bas à Martigues. Ils font le village des Fadas. Oui. Voilà. Et donc, ce centre culturel embarqué a pour mission, en connexion avec des centres culturels à Gaza et en Cisjordanie, de faire des choses pour que créer une matière d'archives et de restitution de cette flottille pour toujours alimenter cette énergie. Voilà, c'est le centre culturel embarqué.
Et tout ça, il faut le dire, tout ça pour parler de la résistance du peuple palestinien. Parce qu'ailleurs, on n'en parle pas.
Certainement pas en France.
C'est ce qu'on appelle des fabrications avec des petits bouts de ficelle, mais qui a valeur de ce qu'on appelle de documents, quoi.
Voilà. Alors heureusement, on est sur Radio Galère, donc c'est quand même une radio fondamentale. Bien sûr qu'il y a plein d'autres radios, mais celle-là a le mérite d'être ouverte à tous les débats. Tous la grille de programmation est extraordinaire. D'ailleurs, j'ai pu participer en début de semaine au conseil d'administration où régulièrement il y a de nouvelles émissions qui arrivent. Ouais. Et donc, après avoir entendu sur Radio Galère, Radio Gaza, ce groupe magnifique qui contient entre autres le Palestinien Monaim Adouam, il se trouve que deux jours avant le départ, donc sur la digue, d'ailleurs jusqu'au mois de mars, les Estakiens l'appelaient le quai sans nom. Symboliquement, parce qu'on n'a pas encore ce pouvoir, une plaque a été apposée sur ce quai de Gaza, et le jeudi 2 avril, on a eu la visite de quelqu'un qu'on aime beaucoup, qui s'appelle HK. Alors, on aime ou on n'aime pas HK, mais ce qui est sûr, c'est que parmi toutes les chansons qu'il a produites, il a mis en musique le poème de ce fameux Gazaoui, Rafat Al-Arir, qui était plus qu'un poète, c'était un professeur d'université. Quand la répression terrible s'est abattue après le 7 octobre, il savait très bien qu'il allait être ciblé. Et donc, il a écrit un poème, puisque je dois mourir, il vous appartiendra de vivre. Voilà. Et donc, on va écouter la chanson qu'on a faite HK et qu'il a donnée dans le 2 avril, au quai de Gaza, à l'Estac.
Il est écrit quelque part que je dois mourir. Il vous appartiendra de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une étoffe et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant quelque part à Gaza, fixant le paradis dans les yeux, dans l'attente de son père, partit subitement sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant quelque part à Gaza puisse voir ce cerf-volant, mon cerf-volant à moi, que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Il voudrait que l'on t'oublie,
Gaza, Gaza,
que ton nom
soit interdit.
Gaza, Gaza.
Toi l'enfant de Palestine.
Gaza, Gaza.
Qui se relève et qui s'obstine.
Gaza, Gaza.
De tout ton cœur, de tout ton être.
Gaza, Gaza.
À ne jamais disparaître.
Gaza, Gaza.
De cette terre qui t'a vu naître.
Gaza, Gaza.
De ce pays, de tes ancêtres.
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui mon cœur est lourd.
Gaza, Gaza.
Aujourd'hui le monde est sourd.
Gaza, Gaza.
Et laisse faire les actes infâmes.
Gaza, Gaza.
Enfant qu'on tue ou qu'on affame.
Gaza, Gaza.
Qui fait semblant de ne pas voir.
Gaza, Gaza.
Qui feint de ne pas savoir.
Gaza, Gaza.
A perdu son humanité.
Gaza, Gaza.
Son honneur et sa dignité.
Gaza, Gaza.
Tu te relèveras, c'est sûr.
Gaza, Gaza.
Tu survivras à tes blessures.
Gaza, Gaza.
Et tu verras haut dans ton ciel.
Gaza, Gaza.
Au bout d'une longue ficelle.
Gaza, Gaza.
Comme un ange qui flotte au vent.
Gaza, Gaza.
Une toile, un cerf-volant.
Gaza, Gaza.
Inscrit dessus en toutes lettres.
Gaza, Gaza.
Les derniers mots de ton poète.
Gaza, Gaza.
S'il est écrit que je dois mourir,
il vous appartiendra de vivre.
Il vous appartiendra de vivre.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort apporte l'espoir.
Que ma mort devienne une histoire.
Que ma mort devienne une histoire.
On entendait HK qui a mis en musique ce poème de Rafat Alarir, « Il vous appartient de vivre ». Et vous avez vu qu'ici, à un moment donné, ce que proposait Rafat Alarir avant de mourir, c'est qu'on fabrique des cerfs-volants, des toiles, et donc on revient au voile. Pourquoi des cerfs-volants ? Mais pour permettre parfois à certains enfants de Gaza de lever la tête, d'avoir comme une lueur d'espoir, quelque chose qui s'anime, qui bouge, plutôt que d'avoir sans arrêt des cendres, des décombres, des choses grises, voilà. Et il nous a semblé que tout le travail justement artistique qui a été fait sur les voiles et que voient les Gazaouiens, puisqu'on est en contact avec énormément de là-bas, hein, de Palestine, voilà. Et donc, on va revenir peut-être à ce reportage là, hein, qui a été très très bien fait après le départ du 4 avril. Donc on a entendu Claude Léostic, qui est donc membre de la FPS, on a entendu Esther, qui a été l'une des femmes extraordinaires dans l'équipe de coordination. Et là, on va écouter un autre gars qui lui se fait appeler Tino. Et d'ailleurs, son pseudo sur Signal, parce que tout était très très bien organisé pour communiquer. On avait la plateforme Signal. Donc c'est Tino Rossi. Alors c'est pas le chanteur corse, hein. C'est donc un gars qui a consacré des mois. En fait, il m'a expliqué, Tino, que l'année dernière, bon, mais il avait vu ce qui s'était passé à la Schönsgaldine. Il a écrit à l'organisation en disant, mais moi, j'ai des compétences organisationnel, je suis pas du tout marin, mais je peux apporter ma pierre à l'édifice pour l'organisation. Et donc on écoute Tino dans ce reportage, donc on peut voir
sur l'anticapitaliste, briser le blocus pour la flottille, enfin la flottille pour Gaza, briser le blocus, la flottille pour Gaza, sur le site l'anticapitaliste.org.
Voilà. Ouais, et donc on va écouter Tino grâce à Aziz qui nous fait la technique aujourd'hui.
Ah, il n'y a pas le son, il faut me remettre le son. Pardon, c'est de ma faute.
Décolonial, anticapitaliste. Et j'essaye de faire ce que je peux à la hauteur de mes compétences.
Bon, je crois qu'il y a une panoplie d'actions qui est importante. La grève, c'en est une. La manifestation, c'en est une. Des formes d'action directe, qui en l'occurrence sont de l'action directe non violente, parce qu'en fait, on se confronte à un État avec une armée. Moi, les formes d'action directe, c'est des formes qui me parlent, que je trouve importantes, qui sont mobilisatrices. Donc, moi, je m'appelle Tino. Je suis militant depuis longtemps. Et là, depuis 6 mois, je suis à la préparation de la seconde vague de Southern Madlines to Gaza. Je m'occupe du pôle navigation, de la mobilisation à terre et de la communication, le porte-parole. Bon, je crois que la question palestinienne, c'est une question centrale dans l'anti-impérialisme. C'est pas que Gaza, c'est toutes les luttes des peuples opprimés qui est symbolisée là-bas. Israël, c'est l'avant-poste du bloc impérialiste occidental. Et puis je crois que le moyen d'action flottille, c'est aussi un moyen d'action qui permet de retrouver de la prise sur les choses. Je pense que tout le monde se sent très impuissant face à la situation là-bas, qui est une situation lointaine. Là, on a un moyen matériel d'essayer de faire quelque chose, faut rester humble. Je pense qu'on va pas changer la face du monde, mais voilà, c'est un vecteur d'espoir, et surtout c'est au-delà de la flottille en elle-même un moyen de mobiliser des gens à terre autour de la question palestinienne et de la question anti-impérialiste.
Ce mois-ci au Parlement, il y a la loi Yadan qui vise à criminaliser la critique de l'État d'Israël. Donc on dit oui, mais c'est ceci, on commence par un petit bout et à la fin on va manger tout le monde. Donc il y a un enjeu, en fait, une réciprocité. Nous, les flottilles, en fait, on a besoin de la terre pour exister, et la terre a besoin de nous pour mener des combats à terre. Donc j'en attends ça. J'en attends un relais mutuel et j'en attends une structuration de la lutte autour de ça.
Et encore une fois, comme je dis, nous, on se pense comme un catalyseur de mobilisation. Et du coup, là, c'était pouvoir avoir un impact concret, essayer de construire une mobilisation à partir des flottilles qui ont un poids symbolique et extrêmement important. Et puis dans la période, je pense que la guerre, c'est la question des 10 prochaines années qui va être centrale dans le monde militant. Je pense que c'est un moyen d'enclencher aussi un front commun large contre la guerre, contre la marche à la guerre. La guerre, elle commence pas aujourd'hui, mais elle s'approfondit, on le voit quand même clairement ces dernières semaines. Donc c'est un moyen d'essayer d'avoir un peu de prise là-dessus à notre échelle.
On est tous...
Des skippers de la flottille, hein, qui lui a embarqué sur le bateau qui est dédié à la cause des femmes palestiniennes. On écoutait Tino, et c'est très important ce qu'ils nous disent, parce que bon, eux, ils sont partis, voilà, ils sont très humbles, hein, ils vont pas changer, mais ça génère un regain de mobilisation des terriens. Et l'exemple précis qu'on a, c'est qu'à l'Estac, justement, c'est créé une dynamique incroyable, y compris, je répète, hein, les autorités ont été quand même extrêmement bienveillantes quand ils ont vu justement que ces gens-là, c'est pas des fous furieux, c'est pas des gens qui sont venus pour casser, non, ils sont venus pour faire des belles choses. Mais une réalisation concrète, donc c'est qu'un nouveau collectif s'est créé à l'Estac, collectif de l'Estac en soutien à la flottille, et la première action concrète, et ça date du 15 avril, après réflexion, là-bas il y a des gens très très bien à l'Estac, hein, et tout le monde est très bien. Mais concernant ceux qui interviennent souvent sur le galère, on a la chance d'avoir Pierre Stambou qui fait partie de ce collectif, voilà. Et donc une lettre a été écrite qu'on va vous lire et qui est destinée à être envoyée à certains des élus, parce que si ces hommes et ces femmes, très jeunes d'ailleurs la plupart, ils prennent des risques là, hein, ils prennent des risques parce qu'aller en mer, il y en a qui disent c'est la croisière s'amuse. Non. Ils le font, nous le faisons parce que ce qu'ils doivent le faire, c'est-à-dire nos gouvernements, nos entreprises, ne le font pas et continuent de se porter complices. Donc voilà, on va vous lire donc la lettre qui a été rédigée par le collectif des habitants de l'Estac et de Marseille en soutien à la flottille pour Gaza le 15 avril 2026. Adressé donc à monsieur Jérémy Bianchi, mais il y aura d'autres élus, bien sûr, qui les recevront. Jérémy Bianchi est sénateur des Bouches-du-Rhône. Donc, Sam.
Yes. Allez, c'est parti. Monsieur le sénateur, le 4 avril, la flottille pour Gaza a largué les amarres depuis le port de l'Estac à Marseille. Des marins et des militants, dont de nombreux ressortissants français, ont pris la mer sans armes, transportant du matériel médical, éducatif et des outils pour la survie de la pêche et de l'agriculture gazaoui, pour tenter de forcer pacifiquement le blocus criminel imposé par l'État d'Israël au peuple palestinien. Leur mission et aussi celle de dénoncer par un acte concret et courageux de responsabilité directe de nos gouvernants, de nos grands médias et de nos grandes entreprises dans le génocide en cours.
Nous nous adressons à vous, monsieur le sénateur, parce que votre engagement sur cette question est documenté et constant. En mai 2024, vous avez signé l'appel national « Reconnaître l'État de Palestine maintenant », affirmant ainsi publiquement votre position aux côtés de centaines d'élus et de personnalités. Vous siégez dans un groupe qui n'a jamais transigé sur le droit international ni sur la défense des peuples opprimés. Votre histoire personnelle, celle d'un fils de Marseille, petit-fils de résistant, militant communiste depuis l'adolescence dans les quartiers nord de cette ville, vous place du côté de ceux qui savent ce que la résistance à la barbarie signifie concrètement.
Mais nous vous écrivons aussi parce qu'un un précédent récent au sein même du Sénat exige une suite. En juin 2025, lors de la flottille précédente, votre collègue sénateur communiste français Jean-Pierre Corbisier a interpellé le Premier ministre François Bayrou sur le sort des otages français, a résonné en eau internationale. Face à la réponse inacceptable du gouvernement, les sénateurs communistes ont quitté l'hémicycle en signe de protestation. Ce geste fort mérite aujourd'hui une suite à la hauteur de l'urgence. Non plus un départ, mais une offensive parlementaire résolue.
Car la situation que nous décrivons n'est pas hypothétique. Elle est documentée par l'histoire récente et annoncée par les menaces explicites de l'État israélien. En 2010, le cargo Mavi Marmara, qui est donc constitué une flottille, a été attaqué en eau internationale par la marine israélienne. 9 militants tués, 28 blessés graves, des dizaines d'autres kidnappés et conduits de force dans des prisons israéliennes où ils ont été enfermés, brutalisés et humiliés sans aucun fondement en droit international. Des ressortissants français se trouvaient parmi eux. Le gouvernement français avait alors mesuré sa réponse à l'aune de ses intérêts diplomatiques, mais non de ses obligations envers ses citoyens.
Nous ne pouvons pas laisser cette histoire se répéter encore. C'est pourquoi nous vous demandons, monsieur le sénateur, d'intervenir lors des questions gouvernement au Sénat pour exiger du Premier ministre deux réponses précises. D'abord, quelle est la position officielle du gouvernement français sur le fait que des ressortissants français puissent être arraisonnés, arrêtés et conduits de force dans des prisons d'un État tiers depuis les eaux internationales, ce qui constitue une violation caractérisée du droit international, de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer et sur les obligations de protection consulaire de la République envers ses citoyens. Ensuite, au-delà des protestations de principe, quelles mesures concrètes, diplomatiques, consulaires, juridiques et si nécessaire navales, le gouvernement entend-il prendre pour protéger ses ressortissants et l'ensemble des membres de la flottille pacifique en cas d'agression par les terroristes de Tsahal, d'arraisonnement ou d'emprisonnement par l'armée israélienne ou par toute force d'un État complice.
Nous demandons également, avec la plus grande fermeté, la levée immédiate et inconditionnelle du blocus de Gaza. Blocus que la Cour internationale de justice elle-même a enjoint Israël de lever et que le PCF, votre parti, a explicitement réclamé dans ses positions officielles. Monsieur le sénateur, vous représentez Marseille au palais du Luxembourg. Vous représentez une ville dont le port vient d'envahir des hommes et des femmes vers Gaza au nom de la conscience universelle. Vous représentez un parti dont l'histoire est indissociable de la lutte contre toutes les formes de barbarie organisée. L'heure n'est pas à la prudence diplomatique, elle est à l'acte parlementaire clair, visible et sans ambiguïté. Notre collectif restera mobilisé pendant toute la durée de la mission de la flottille Mille Madeleine. Nous tiendrons les Marseillaises et les Marseillaises informés et nous serons attentifs à chaque prise de parole ou à chaque silence de la représentation nationale. Dans l'attente de votre réponse, etc. Et donc c'est signé le collectif des habitants de l'Estac et de Marseille en soutien à la flottille pour Gaza. Donc cette lettre, comme elle va être écrite donc à ce sénateur, mais également bien évidemment à un grand nombre d'élus français. Oui. Vous pourrez écouter dans la prochaine émission Une heure en Palestine, mercredi prochain, ça sera le 25, c'est ça?
Oui.
Le témoignage d'Isaline Chouri.
Ce sera le 20, 23...
Non, mais l'émission Une heure en Palestine, mercredi prochain, on l'a enregistré avec Sylvie lundi, voilà. Mmh. Et donc mercredi prochain, dans l'émission Une heure en Palestine, on entendra un certain nombre d'informations, mais également le témoignage de la doyenne de la flottille 2025, de l'année dernière, Isaline Chouri, qui explique qu'en Corse, à force que des associations, des individus, des partis ont écrit au Parlement de Corse à l'époque pour exiger, comme le veut en fait, le veulent les textes, la reconnaissance de l'État de Palestine, mmh. Eh bien, ils n'y croyaient pas, mais à force de l'avoir fait, refait, eh bien, un jour, le Parlement les a convoqués, à titre d'auditeurs, bien évidemment, ils ont assisté au débat, et il y a eu une élection démocratique, et le Parlement de Corse, à l'époque, a reconnu l'État palestinien, même si c'est qu'un État qui peut reconnaître un État, mais au moins, ces élus ont pris leurs responsabilités.
Voilà.
Donc il appartient à chacun et chacune, on connaît le nom de nos députés, le nom de nos sénateurs, ben, d'écrire à nos élus, quand c'est le cas, ils ne respectent pas l'engagement fondamental de protéger leurs citoyens.
Oui.
Voilà. Alors je vois qu'il
alors que c'est leur devoir.
C'est leur devoir.
Le problème,
alors,
c'est que moi, mon député à moi s'appelle Franck Alesio. Je vais lui écrire quand même.
Oui, il faut lui prendre la tête, là. Le harceler, que sa boîte mail, elle explose.
Alors bon, je vois qu'il est déjà à 17h50. C'est un plaisir d'être sur Radio Galère avec Aziz et Sam, mais le temps passe. Et alors, je voulais juste, on a encore quelques minutes, pour annoncer, en plus de cette fatigue, donc qu'on va suivre attentivement, et surtout, je dirais, a priori, début mai, quand leur trajet deviendra de plus en plus dangereux. Donc on a à Marseille une antenne départementale, un groupe départemental de l'association France-Palestine Solidarité, et on a en particulier Samar, mais aussi Mireille, Sarah, etc., qui entretiennent un site qui est absolument intéressant pour plein d'informations et aussi un agenda. Et donc dans cet agenda de l'assaut palestinetrade.org, on voit bien sûr que dimanche, comme tous les dimanches, à Marseille, il y a une manifestation, rendez-vous porte d'Aix, avec comme thématique la solidarité avec les prisonniers palestiniens. Le lendemain, donc lundi 20 avril, cette fois c'est une rencontre à propos du monde arabe qui a lieu à un petit cinéma qui s'appelle le cinéma de la Baleine. Là aussi on reste dans le domaine de la mer qui est au cours Julien, voilà. Et alors on va arriver bientôt au mois de mai, on a la chance depuis 5 ans à Marseille d'avoir la merveilleuse équipe du festival Ciné Palestine, dont le temps fort est au mois de mai. Mais chaque fois qu'un film sort, cette structure trouve un cinéma à Marseille pour le projeter. Par exemple, il y a eu l'avant-première du film Palestine 36 au cinéma La Variété.
Voilà.
Donc les cinémas qui se sont engagés à Marseille avec le festival Ciné Palestine, il y a eu tout de suite le petit cinéma de la Baleine, le Vidéodrome, mais ensuite on a le Variété, le Variété qui est donc en plein milieu de la Canebière. On a ce merveilleux cinéma Le Gyptis qui est à la Belle de Mai. Merveilleux pourquoi ? Parce que c'était une théâtre dont là il y a vraiment une grande salle, un grand écran. Voilà. Et pour la première fois, dimanche, alors pas celui-ci, mais le dimanche 26 avril, à l'Estac, là-bas, justement, on revient à l'Estac, où il y a un lieu mythique qui s'appelle l'Harmonie de l'Estac, qui existe depuis 250 ans, va être projeté le film Bye Bye Tibériade. Bon, cette fois, c'est en eau douce, hein, le fameux lac de Tibériade, mais quand même, et avec un débat, je n'ai pas retenu son prénom, avec l'autrice de ce film. Donc, dimanche 26 avril, à partir de 17h30, rendez-vous à l'Harmonie. Et puis, au mois de mai, donc, vous pouvez d'ores et déjà consulter sur les réseaux Festival Ciné Palestine, c'est en mai, et prochainement, j'ai pas la date exacte, mais il va y avoir un gros concert de soutien au Molotov, parce qu'évidemment, là aussi, c'est comme pour les flottis, l'équipe est bénévole, et donc, même si les cinémas sont sympathiques d'accueillir, ben, il y a des frais, voilà. Il y aura un grand concert de soutien au Molotov, mais je crois que Sam, t'as d'autres événements.
Il y en avait déjà eu un hier.
Oui, oui, ben, le Molotov fait partie des lieux qui ouvrent ses portes à beaucoup de bonnes raisons. Et puis, il y a de la bonne musique. C'est ça,
oui.
Voilà.
Oui, entre autres. Il y a aussi, en fait, à partir donc de demain, l'Assemblée Générale pour les flottis, contre le génocide, contre la complicité de la tech, la technologie qui est au service du mal et de la guerre. Et donc, ça aura lieu à partir de 18h au 8 Pillard. Donc,